Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau témoignage d'une collectivité sur sa démarche IA. Nous recevons la directrice de projet de la stratégie IA du département du Nord. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, allez, un peu technique, et peut-être politique.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune.fm, sur notre app mobile, Android ou iPhone, bien entendu sur la bande FM à Paris, 93.1 FM, ou sur le DAB+, au niveau national. Vous nous retrouvez également en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté, de nous concevoir autant de beaux outils pour pouvoir vous parler. Oui, nous avons besoin de vous. Quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Allez, usez de vos super pouvoirs sur les plateformes, sur les réseaux, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, c'est notre seule récompense. Et en plus, ça nous fait connaître, parce que ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Bon, cette saison 3, vous l'avez compris, on est en partie dédié au témoignage des pionniers qui conçoivent et mettent en œuvre une stratégie IA, principalement dans les collectivités locales. Donc aujourd'hui, nous continuons notre tour d'horizon avec un nouveau département, le département du Nord. Et ben, à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle interview, moi il faut que je cherche un peu l'intérêt qu'il y a derrière l'interview, quels sont les sujets inédits. Alors concernant le département du Nord, une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer les possibilités offertes par Microsoft, la suite 365 Microsoft et l'assistant IA copilote. On va pas faire que ça, hein, c'est pas le seul sujet qu'on va aborder, mais le département a une vraie réflexion, une vraie démarche pensée articulée qu'il est intéressant d'entendre. Autre point original du département du Nord, son approche des projets par l'analyse des gains. Je crois que notre invité pourra également nous parler de l'accompagnement mis en place avec des webinaires dédiés. Mais on va aussi parler gouvernance, on va aussi parler lien avec les organisations syndicales, bien entendu Shadow IA, ça c'est valable partout, et puis toutes les expérimentations métiers. Bon, vaste programme, mais heureusement pour nous, c'est avec la directrice de projet de la stratégie IA du département du Nord que nous sommes aujourd'hui. Bonjour Héloïse Bocquillon.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous à distance. Normalement, ça ne s'entend pas parce qu'on a tellement des bons outils chez Cause Commune que ça ne s'entend pas que vous êtes à distance. Parlez-moi d'IA, Héloïse, et commençons peut-être par le commencement. C'est quoi l'événement déclencheur qui pousse tout d'un coup le département du Nord à s'intéresser à l'IA ?
Alors, on a une directrice générale des services qui a constaté que beaucoup d'initiatives se déployaient dans les services, dans les directions générales adjointes. Et donc, les choix d'outils pouvaient être divers et variés. Et elle s'est dit, il faut une coordination de cette ambition. Et donc, elle a souhaité la création d'une direction de projet Stratégia qui lui est directement rattachée. Cela s'est fait assez récemment dans la mesure où c'est passé en comité CST auprès des organisations syndicales vers avril dernier. Et depuis juillet, je suis sur ce poste de directrice de projet Stratégie IA, directement rattachée donc à la DGS.
Alors revenons un peu effectivement à vous. Vous avez été nommée, vous venez de le dire, en juillet 2025. Et c'est quoi votre background professionnel pour arriver à ce poste ? Qu'est-ce qui vous emmène jusqu'à ce poste ? Et finalement, quel est votre intérêt sur ce sujet en particulier ?
Alors, je ne suis pas du tout experte en matière d'IA, de numérique.
Vous voulez dire techniquement ?
Exactement. Ouais. Pas experte techniquement, tout à fait. J'ai plutôt un profil de gestion de projet. Ouais. Donc, j'ai été longtemps chargée de mission auprès de DGS successifs du département du Nord. Un poste de chargée de mission auprès de DGS, il peut être mouvant en fonction des temporalités du mandat. Donc, regarder des sujets de politique publique ou des sujets internes. Voilà. Et Avant cette prise de mission, j'étais directrice de projet de ce qu'on appelle le nouveau forum, qui est un nouveau bâtiment qui a été déconstruit puis reconstruit et dans lequel on est passé en flexofix. Et donc, il a fallu emmener plus de 2000 agents vers ces nouveaux usages. Et ça a demandé aussi beaucoup d'accompagnement au changement. Ouais. Beaucoup de transversalité. Donc, c'est pour ça que dans les suites, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de coordonner les acteurs autour d'un projet avec beaucoup d'impacts transversaux également.
Donc, un gros projet à impact, à transformation qui vous emmène jusque-là. Et aujourd'hui, comment vous vivez votre rôle de direction de projet de la stratégie IA? Comment vous l'envisagez? Est-ce que vous avez des lignes directrices particulières?
Alors oui, on a une gouvernance qui s'est mise en place avec le comité de direction générale.
Ouais.
Donc il a fallu plusieurs réunions avec l'ensemble des directeurs généraux adjoints, la DGS, pour poser la stratégie. Les lignes directrices, c'est aussi une délibération cadre qui a été portée il y a 2 mois en conseil départemental et qui a fait l'objet d'un vote et qui pose aussi les ambitions pour lesquelles le département du Nord veut se positionner sur le sujet de l'IA.
Ouais.
Quels grands principes il met derrière, hein, la frugalité, la souveraineté, même si aujourd'hui je viens parler un petit peu de Microsoft, évidemment ça peut paraître...
Vous allez nous expliquer, vous allez nous dire. Hein, vous allez
tout
nous...
à fait.
Oui, tout à fait.
il y a également l'idée de se dire on ne veut pas utiliser de l'IA à tout va.
Ouais.
Il faut que l'IA elle soit vraiment au service de nos politiques publiques, mais au service aussi avec une lecture, une grille d'analyse des gains, au pluriel, hein, que pourrait générer l'usage d'outils.
Donc dans cette gouvernance, ça commence par une délibération qui a déjà eu lieu en fait, avec
Exactement.
Les grands principes, et il y a des différents comités qui ont été mis en place pour piloter cette démarche.
Tout à fait. Et alors, je parlais du comité de direction ouais. générale parce que c'est l'instance d'arbitrage qui permet de statuer sur les lignes directrices, donc on le disait, de la direction de projet, mais également de se dire quel projet, quel cas d'usage on priorise,
ouais.
quels moyens on alloue à cette stratégie. Et derrière, évidemment, il y a une instance qu'on appelle le comité IA.
Ouais.
Donc, que j'organise et qui fait dialoguer les fonctions support et les directions métiers.
Fonctions support, c'est quoi? C'est la DSI?
DSI, DRH,
ouais.
DFCG, donc finance, conseil en gestion.
D'accord.
Affaires juridiques. Donc, toutes nos fonctions support,
ouais.
l'idée, c'est qu'elles aillent demander aux porteurs de projets derrière quels sont les risques
ouais.
de l'usage,
ouais.
quels sont les gains, et RH, budgétaire. Voilà, donc c'est vraiment d'aller challenger
D'accord.
le projet.
Donc les directions ressources viennent un peu appuyer et challenger les cas d'usage proposés par les métiers.
Exactement. Donc, on a carrément fait ils l'ont appelé comme ça, un speed dating des projets.
D'accord.
C'est-à-dire que les porteurs de projets avaient 8 minutes pour pitcher leur projet et en face, les fonctions support au pluriel,
ouais.
parce que j'en ai oublié, hein, il y a également une direction de la modernisation, de l'évaluation sur l'impact, accompagnement au changement ou autre, sur les risques. Et donc, avaient 8 minutes à leur tour pour interroger nos porteurs de projets.
Bon, on reviendra sur les projets un peu plus tard.
Oui.
Vous m'aviez aussi parlé du comité éthique. Il y a un comité éthique dans cette comitologie. Il se place comment, en fait, vis-à-vis des autres?
Le comité éthique, c'est l'instance de dialogue social. C'est-à-dire
ouais.
que c'est dans ce lieu qu'on va rendre compte auprès des organisations syndicales de
D'accord.
l'ensemble des projets menés, des initiatives menées, parce que je parle de projets, mais il y a aussi toute la partie acculturation, formation, outillage pour,
ouais.
pour l'ensemble de nos plus de 12 000 agents au département du Nord. Et donc, ils se positionnent, eux, les organisations syndicales, un peu comme les garde-fous de ce qui va être mis en place au sein du département. Donc, le premier comité éthique qui s'est tenu a beaucoup tourné, vous l'imaginerez peut-être, compte tenu de nos missions, autour de l'IA et du travail social. Donc, c'est un sujet qui m'est cher dans ce qu'on va mener ici au département.
Oui, vous avez raison. Rappelons juste les grandes missions d'un département. Effectivement, il y a tout l'aspect social. Vous gérez beaucoup,
oui.
beaucoup de prestations et de droits sociaux pour la collectivité.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission pour un département?
Donc, on a tout ce qui est l'autonomie, donc, les prestations également. Ça rentre dans le social, on dirait. Hein, mais, donc, la protection de l'enfance également. On a la relation aux usagers par des maisons hors solidarité assez globalement. Donc, ça, c'est encore dans toute la partie sociale. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les solidarités territoriales. Donc, la maintenance des collèges, les voiries départementales.
Les routes, oui.
Les routes.
D'accord, et donc là-dedans, vous l'avez dit, il y a 12 000 agents.
Oui.
Et combien vous estimez ?
Le premier département de France en nombre d'habitants.
Ah oui, d'accord.
En termes de population.
Bah, c'est intéressant à savoir, effectivement, c'est pas forcément intuitif. Et donc là, vous avez parlé effectivement des usages qu'on a tous finalement aussi chez soi. Est-ce que vous constatez, comme ailleurs, un gros usage de Shadow IA, d'une IA qu'on ne sait pas trop quantifier, mais qui est bien là? Est-ce que vous avez essayé de la quantifier? Est-ce que vous avez essayé de regarder quelle était la tendance au sein des services?
Oui, il y a un logiciel de gestion de sécurité utilisé par notre DSIN qui m'a permis d'avoir un petit peu d'éléments là-dessus, c'est-à-dire qu'on a pu voir quelles IA étaient consultées. Après, bon, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'on n'arrivait pas à... Mais en tous les cas, on voit que ChatGPT, que Gemini, que Perplexity, que des IA comme Gamma pour de la production de documents sont utilisées. Et nous, ça pose vraiment question sur l'usage de données personnelles.
Bien sûr.
Je parle de celles des nordistes.
Ouais. Donc, vous faites le constat de l'usage. Et pour l'instant, vous n'avez pas stoppé les usages, vous n'avez pas bloqué les usages. Vous êtes plutôt dans une tendance à regarder, à essayer d'accompagner, d'encadrer, de réguler.
Alors, on a le souhait quand même de bloquer ChatGPT.
D'accord. Ok,
c'est
pour bientôt.
Ça peut pas être... Oui,
là, c'est... d'accord.
Et donc, on l'annonce par
une annonce. C'est une annonce pour OpenAI.
Voilà.
D'accord, très bien.
Ah, c'est quand même autant d'agents en moins.
Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc,
compte tenu de ces données personnelles qui sont utilisées, exactement sensibles, c'est peut-être un premier pas. Et derrière, effectivement, il y a la sensibilisation. Donc, nous avons effectué des webinaires et ciblé un outil qui est celui de Copilot, qui pour nous est sécurisé dans le cadre. Voilà, on y reviendra. Et au-delà de ça, il y a également une charte. Donc, je pense que toutes les collectivités y vont sa charte et que la littérature ne manque pas en la matière, mais que l'idée est donc d'associer un très large panel d'agents en leur disant, bon, des chartes ont vu le jour dans X collectivités. Mmh. J'en ai ressorti une synthèse. Pour vous, qu'est-ce qui manque dans ce que nous portons, nous, au département du Nord?
C'est intéressant,
ça. Pour la co-construire, donc, on va aller dans les 6 arrondissements du département du Nord.
D'accord.
Avec ce qu'on appelle la Fabrique 59, qui est notre laboratoire d'intelligence collective, et associé à un large panel d'agents. Parce que je me dis, j'aurais pu faire une synthèse de ces chartes, puis la faire émerger, mais...
Bon, ok, après, c'est en cours d'associer. Alors. C'est en cours.
Oui.
Vous faites une tournée territoriale pour montrer cette première synthèse et inviter à l'enrichir ou à l'amender.
C'est exactement ça.
D'accord. Bah, très intéressant, ça, comme façon de faire. Bon, alors... On l'a dit en introduction, vous l'avez dit déjà plusieurs fois. Allez, abordons le sujet Microsoft. Bon, vous savez, ici, si vous avez déjà écouté un peu l'émission, vous savez, on n'est pas des fanas hein, de Microsoft. Même, c'est un peu même le contraire. On est plutôt open source, on essaye quand même de trouver des solutions où on n'est pas trop bridé par des solutions propriétaires. Mais ça m'a paru intéressant quand même de vous donner la parole et puis vous nous expliquiez finalement quelle est votre démarche vis-à-vis de Microsoft. Et donc, expliquez-nous finalement comment vous en êtes arrivé, j'imagine, bon, avec les outils Microsoft déjà existants au sein de la collectivité, avec la suite installée Microsoft 365, comment vous vous êtes dit, bon, finalement, on l'a sous la main, commençons par utiliser ça, et puis voyons voir ce que ça donne et comment ça tourne. Comment vous avez vécu cette façon d'utiliser Microsoft au sein de la collectivité?
Alors, je voudrais dire d'abord que notre DSIN ne se positionne pas non plus comme des pros Microsoft et que c'est pas un combat de dire on y va coûte que coûte, malgré ce qui se passe au niveau international, etc. Effectivement, Microsoft, on l'utilise depuis quelques années et surtout depuis la crise Covid, pendant laquelle, en fait, on a déployé très largement les Teams et autres
tous les outils collaboratifs, quoi,
Tout à fait, exactement. Ouais. Pour garder ce lien au public permanent et pour la continuité du service public, donc on a déployé tous ces applicatifs. Et dans cette continuité, tous les agents ont accès à ce qu'on appelle Microsoft Copilot, qui est intégré nativement à ces outils de travail que j'évoquais avant. On a Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, SharePoint. Je les cite parce que c'est important dans l'usage de Copilot.
Bien sûr.
C'est-à-dire que si on n'utilise pas bien ces applicatifs-là, pour la version qu'on appelle professionnelle de Copilot, elle ne sert pas à grand-chose en réalité.
Ouais.
Donc les principaux cas d'usage de Copilot suite basique, c'est produire des synthèses, des résumés, aider à la rédaction, à la structuration de contenu, assister dans l'analyse et l'exploration de données, parce qu'on peut aussi aller sur Excel avec. Et ces usages visent avant tout à faire gagner du temps, à faciliter la compréhension, la synthèse, la rédaction. Et ça ne se substitue à aucune expertise, à aucune responsabilité. Donc on a accompagné dès septembre, on s'est dit on va faire des webinaires, on va montrer un peu aux agents comment y accéder, qu'est-ce que ça permet de faire, et en leur précisant, appuyé par notre RGPD, que tout ce qui était mis dans Copilot était dans ce qu'on appelle notre tenant, notre environnement propre, et que les données utilisées, injectées, je dirais, sur Copilot, ne sont pas utilisées autrement, enfin ailleurs oui. que sur notre tenant, pardon.
Et ça, finalement, vous me le disiez aussi en préparation. Vous vous appuyez pour pouvoir dire ça sur le cadre contractuel que vous avez avec Microsoft. Alors, vous savez que, enfin voilà, forcément, hein, ce qu'on se dit là, ça va provoquer des réactions. Plus ou moins épidermique, on va être très clair, parce qu'on va vous parler de perte d'autonomie, de souveraineté, d'effectivement de la donnée qui part, de la donnée personnelle qui part, on ne sait où. Et vous me dites, quand je vous pose cette question en préparation, ben, on a un cadre contractuel avec Microsoft qui nous garantit certaines choses. Alors, comment vous voyez ce cadre contractuel? Comment vous pouvez nous le préciser et nous l'expliquer?
Alors, effectivement, l'usage de Copilot s'inscrit dans le cadre contractuel existant.
Ouais.
Et donc, Copilot est intégré à l'environnement. Donc, tout ce qu'on utilisait déjà était dans ce cadre-là, c'est-à-dire que toutes les données que vous utilisez dans les SharePoint, dans Teams, ont exactement le même impact que celles que vous mettez dans Copilot. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Après, il y a quelques éléments, effectivement. Microsoft indique agir en tant que sous-traitant et les données sont soumises aux politiques internes et à la responsabilité du département, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de maîtriser les données qui vont être injectées dans ces IA, dans cette IA de Copilot.
Bien sûr.
Et ça, c'est le cas pour toutes les IA. Tous ceux qui vont sur ChatGPT doivent avoir cette même rigueur.
Mais du coup, ce que vous appeliez le tenant, c'est finalement l'hébergement de ces données. C'est-à-dire que c'est l'environnement d'hébergement de ces données. Et vous avez la garantie que c'est un hébergement que vous maîtrisez et qui ne part pas à droite à gauche?
Alors, ce que me dit le RGPD sur ce point, c'est qu'il y a un addenda de Microsoft, vous savez, les astérisques dans les contrats, qui stipule que le Data Processing Agreement, donc le DPA, s'applique à tous les produits et services de Microsoft. Donc, Microsoft, par cet addenda, s'engage lors de la fourniture de produits, de services, à ne pas utiliser ou traiter de toute autre manière les données du département.
D'accord.
Et le DPA recouvre toutes les données à caractère personnel qui sont incluses dans les courriers électroniques, documents et autres données sous forme électronique, ce qui inclut donc Copilot.
D'accord.
Mais attention, cela n'exclut pas l'idée qu'on ait d'autres réflexions sur des outils souverains, au contraire.
Oui, au contraire, on va y revenir. Non, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez quand même fait ce choix en connaissance de cause, en ayant analysé juridiquement les éléments, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, ça c'est quand même, voilà, il faut l'entendre, et ben, vous faites confiance, alors certains vous diront, il ne faut surtout pas faire confiance, vous faites confiance à cet agreement, à ce contrat, pour effectivement protéger les données en question.
Et après, je voudrais juste préciser sur ce point que le RGPD et les juristes sont aussi en cours d'analyse du contrat. Et
d'accord.
C'est pour ça qu'on demande d'utiliser, et c'est pour ça qu'on a fait des webinaires avec plus de 500 participations et qu'on met des replays, parce qu'on met des précautions d'usage.
Ah,
et que l'analyse juridique se poursuit. On ne se leurre pas derrière cet addenda. On en a fait l'analyse, mais on veut aller encore plus loin.
D'accord.
Mais du coup, effectivement, on a bien connaissance des débats sur la souveraineté.
Faites attention à l'usage, quoi.
Tout à fait. On cadre l'usage, mais bénéficiant de cet outil, on va dire gratuitement, je mets des guillemets évidemment.
Oui, c'est dans la licence, quoi. Dans la licence générale.
C'est ça.
Ouais,
ouais. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé sur le pro, par contre. Ouais. On ne va pas plus loin.
Oui, on va peut-être. Enfin, vous me direz si on doit parler du pro ou pas, mais du coup, moi, ma question, c'était maintenant si sur le versant usage, moi, j'ai souvent entendu dire, et puis pour l'avoir utilisé aussi, pour être très clair, que c'était pas une IA très performante. C'est-à-dire que, enfin, on lui demande des choses. Alors vous parliez de produire des synthèses, des résumés, aider à la rédaction, et que c'était pas. Enfin, quand on utilise d'autres IA, on s'aperçoit assez rapidement que Copilot n'est vraiment pas la meilleure. Est-ce que vous n'avez pas eu cette remarque aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des usagers qui vous ont dit, des agents qui vous ont dit, mais oh là, mais ce truc-là, il marche pas très bien, il fait pas très bien ce que je veux. Et vous n'avez pas eu ce retour-là de la satisfaction ou de l'insatisfaction des usagers? Ou au contraire, ça s'est bien passé?
Il y en a qui utilisent ChatGPT, pour le citer à nouveau, et qui disent, bon, normalement, c'est pas préconisé, mais qui disent effectivement la qualité rédactionnelle ou le contenu est meilleur. Mais on n'a pas pu objectiver encore aujourd'hui ces retours-là. Okay. Ce qui est intéressant dans l'usage de Copilot, c'est aussi le côté natif avec tous nos applicatifs.
Ouais. Et ça, c'est vraiment utilisé. C'est-à-dire que les gens, dans leur présentation PowerPoint, dans leur fichier Excel, dans leur Word,
ils peuvent avoir, oui.
Et ils le font. Et vous savez s'ils le font et si ça donne des résultats.
Alors, on a des statistiques, on est en train de les étudier, là. C'est encore un peu...
OK.
Frais.
Et donc, c'est un peu l'idée. En tout cas, c'est de dire, voilà, oui, il y a des outils natifs, on les utilise, elles sont sur étagère, ils y vont, on leur donne des préconisations d'usage et on voit comment ça tourne, vous regardez, vous évaluez.
Okay. C'est ce que préconise la DSIN exactement. Et c'est là que c'est aussi important de distinguer le rôle d'une direction de projet stratégia et d'une DSIN qui, elle, fait les choix des applicatifs et de l'évolution, etc. Et moi, comme je le disais au préalable, je ne suis pas experte techniquement.
Bien sûr. Okay.
Et donc,
vous appuyez sur
plus en fonction des usages et de ce qu'on pourra évoquer sur les cas d'usage également.
Bien sûr. Les cas d'usage, on y va tout de suite après. Une dernière question sur Copilot. Vous m'aviez évoqué en préparation peut-être la possibilité d'utiliser ou pas d'ailleurs Pro, donc la version Pro. Et la version, c'est quoi? C'est Go Plus, c'est
Go
ça?
Go Plus, ouais. Il l'appelle comme ça effectivement.
Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Est-ce que vous en avez un intérêt particulier?
Alors, c'est plutôt Copilot qui essaye, je pense, d'appâter aussi, hein, en disant, faites une expérimentation, si vous voulez, une centaine d'agents, parce que je rappelle que la licence, c'est 30 euros par mois par agent.
En plus,
imaginez avec le nombre d'agents chez nous.
Ça va vite.
Donc, c'est pas du tout l'ambition. Loin de là. Cependant, cette expérimentation, on s'est dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que permet le Go Plus que ne permet pas ce qu'on a nativement? Ce sont des capacités plus avancées d'exploitation d'assistants.
D'accord.
De création d'assistants, d'agents. Sur la base des sources de données de notre organisation, on peut se créer un assistant et puis le partager avec quelqu'un qui a une licence Go Plus aussi. C'est-à-dire que je ne peux pas aller interroger un agent qui a été créé si je n'ai pas l'assistance Go Plus, ou alors il faut acheter.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est toujours le sous derrière le sous. La possibilité de s'appuyer sur des sources documentaires internes spécifiques, donc ce qui est travaillé dans le OneDrive, dans le SharePoint, ça se retrouve assez facilement. Par exemple, vous pouvez interroger votre boîte mail et dire je voudrais les derniers mails, les échanges de mails que j'ai eu avec Jean-Philippe, que tu m'en fasses une synthèse et que tu me dises où on en est de ce sur quoi nous avons échangé.
Ça vous pouvez pas vraiment le faire avec le Copilot classique?
Non.
D'accord. Okay.
C'est la version Go Plus qui permet de recouper.
Et là, vous êtes en pleine expérimentation de ça? Pour l'instant,
on va la lancer.
Il semble
que beaucoup de collectivités avaient été approchées et que certaines y renoncent. Donc, c'est intéressant de le noter aussi. Et moi, je l'ai porté au niveau de la direction générale, ce débat, en se disant, alors, est-ce que vraiment on veut aller plus loin ou est-ce qu'on n'utiliserait pas Mistral ou d'autres pour
Et là, justement, on tourne la page Microsoft.
Excusez-moi, pour aller dans les autres usages, il y a également ce qu'ils appellent facilitateur qui enregistre la réunion et qui fait le compte rendu. Et ça, c'est assez bluffant, effectivement. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres outils qui le font.
Exactement. Plutôt open source, pour le coup.
Ouais.
Bon, alors, tournons la page Microsoft. Vous avez d'autres cas d'usage, d'autres cas métiers, et vous ne les adressez pas forcément avec Copilot. Comment vous avez fait pour adresser ces... Alors, quels sont ces autres cas d'usage, métiers? Et puis, comment vous envisagez de les adresser?
Juste pour dire aussi que donc derrière cette expérimentation Go Plus qui sera faite, la proposition que j'ai faite au CDG, c'est de se dire, au comité de direction générale, pardon, prenons le même panel d'agents et faisons leur tester Mistral et faisons leur tester peut-être un outil open source également.
Ah, du comparatif.
Voilà, pour faire une comparaison. Pour les cas d'usage, donc je le disais au préalable, il y avait des coûts entre guillemets partis, mais on n'a pas à le déplorer. Au contraire, je pense que c'est bien aussi de s'appuyer sur ce qui a été mené. Et donc, on a par exemple la direction de la voirie.
Ouais.
Qui avait pris une longueur d'avance dans la réflexion et elle utilise l'IA pour faire des relevés de désordre des chaussées, l'IA pour la reconnaissance patrimoniale des chaussées, de la des signalisations, d'aménagement cyclable.
Avec du computer vision, computer vision, l'image qui passe, ils enregistrent une vidéo et ils voient s'il y a un défaut de la route ou pas.
Exactement.
Ingénieur. Okay.
Concrètement, ce sont des détections de relevés, de ces détections de relevés, pardon, découle une notation simplifiée du réseau.
D'accord.
Et le but, c'est de fiabiliser la connaissance patrimoniale, d'améliorer les conditions de circulation des usagers et d'intervenir de manière plus rapide et ciblée sur des routes qui pourraient avoir de plus gros défauts que d'autres et qui n'auraient pas été repérées, par exemple.
Et peut-être même de manière un peu prédictive aussi, potentiellement aussi.
C'est l'ambition, oui.
De prévoir comment on peut faire une maintenance prédictive un peu avant que la route soit complètement défoncée, quoi.
C'est exactement l'ambition.
Il y avait également, vous m'en avez parlé, un chatbot RH.
Exactement, donc on...
Je presse un peu parce qu'en fait, le temps court et on est presque à la fin de l'émission. Je voudrais pouvoir que vous parliez du chatbot RH.
Alors, le chatbot RH, donc, on a effectivement deux ambitions d'agent conversationnel. Un à vocation interne à la DRH et un plus en relation usager autonomie. C'est-à-dire que la DRH, elle nous dit aujourd'hui, on a des agents qui sont absorbés par les appels sur le recrutement, la formation. Et l'idée, c'est de mettre tout
l'info,
les règlements intérieurs et les informations effectivement dans ce chatbot et de voir ce que ça peut libérer comme temps pour les agents qui dédient beaucoup d'énergie à cela. Ils ont mis un pourcentage de 30 à 50% de gains de temps RH estimé pour certains agents qui absorberaient ces appels.
Ah oui.
Donc pour cet agent conversationnel, à la différence de Copilot, évidemment, on est allé sur un choix d'outils souverains. C'est encore en cours d'acquisition. Mm-hmm.
Vous ne pouvez pas en dire trop de... Mais c'est en cours et ce n'est pas Copilot. Ça serait un chatbot RH qui permettrait aux agents du coup, de poser leurs
français,
questions.
Français, oui, avec donc un prix estimé à 180 000 euros en investissement.
D'accord.
Voilà. On va aller chercher du FEDER, donc on essaie d'être frugal aussi dans la dépense.
Oui, c'est ce que vous me disiez, finalement, vous appuyez aussi avec la région sur les capacités de la région à aller chercher des financements européens, c'est ça?
Oui, la région Hauts-de-France a un rôle important dans l'IA au niveau des Hauts-de-France. Elle a fait un appel à manifestation d'intérêt derrière lequel on peut déposer des dossiers FEDER et donc avoir des subventions pardon, à hauteur de 60% des projets. Donc, on va y aller.
Bon, bah, très bien.
Pour le projet Voirie et pour le chatbot également.
Bon, on le voit à chaque fois, de toute façon, vous avez le souci d'essayer d'analyser en amont les gains potentiels de chaque projet dans différentes dimensions, que ça soit RH, que ça soit financier, que ça soit transformationnel, que ça soit tout ça. Et donc ça, j'ai cru comprendre que vous l'appliquiez finalement cette grille à tous les débuts de projet, grâce à votre comité.
Exactement. Avec la direction du contrôle de gestion, la direction de la modernisation, la DSN, on a revu tous les kits méthodologiques qui étaient utilisés, la note d'opportunité, la note de cadrage, et on y a adossé une grille d'analyse pour voir dès l'ambition de projet quel impact était visé par l'acquisition de cette brique IA ou de cet outil IA. Et donc, on est à 5 séances de travail avec les directions que j'ai citées. Et donc, l'idée, c'est de le tester sur un panel de direction métier pour voir s'il n'est pas trop lourd parce qu'il y a effectivement le cadre qu'on veut donner et l'innovation. Est-ce que c'est antinomique? Des fois, on se pose la question, effectivement.
Bon, et pour conclure, Héloïse, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, voilà, c'est quoi la prochaine grande étape que vous comptez passer avec cette démarche IA? Et puis, on conclura là-dessus parce que, voilà, ça y est, c'est déjà fini cette émission.
D'accord. La prochaine grande étape, j'en ai parlé un petit peu, c'est cette tournée des arrondissements, oui, pour aller sensibiliser, récolter les peurs, les appréhensions, et puis faire de la pédagogie autour du sujet pour embarquer. Et puis voilà.
On l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est aussi un point important que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qu'on pourrait évoquer, c'était toute votre démarche d'accompagnement avec de nombreux webinaires dans tous ces sujets-là, des webinaires que vous remettez après en replay et qui ont un grand succès au sein de votre collectivité. Mais écoutez, c'est l'heure de conclure. Merci Héloïse, c'est une émission qui passe très vite, j'en suis désolé. Merci beaucoup pour ce partage de votre démarche et de tous vos projets.
Merci à vous.
Merci à vous, chers auditeurs. Cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser le contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.